15h-16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis Olivier Delacroix, je suis avec vous en direct jusqu'à 16h comme tous les jours et ravi de passer cette heure en compagnie de ma camarade Omblin. Comment
bonjour.
Allez-vous aujourd'hui?
Ça va bien, bonjour à tous.
Nous sommes dans le studio Lagardère
oui,
aujourd'hui.
On a changé, hein, on a déménagé.
Il est beau, c'est là où Nico, oui. C'est là tous les matins.
C'est ça, et Mathieu Béliard le soir.
Voilà, et Mathieu Béliard le soir,
tout
avec qui que vous accompagnez tous
avec
les soirs ma chère.
Également.
Ici c'est votre heure, comme vous le savez, car nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient bonnes, mauvaises ou lumineuses, car votre vécu nous intéresse. Aujourd'hui, on va parler du racisme, car il y a moins de racisme en France, mais les préjugés persistent malheureusement. Si le ministère de l'Intérieur enregistrait une baisse de 16% des actes racistes en 2017, une étude réalisée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme la même année montre près d'un Français sur deux admettrait avoir une part de racisme en lui, bien qu'en baisse, 2% des personnes interrogées se disent plutôt racistes contre 12% en 2000 et 19% se disent un peu raciste contre 31% avant. Ça fait beaucoup de chiffres, mais on voit que c'est en baisse. Comment se traduit ce racisme? Comment le combattre? La tolérance peut-elle servir de rempart? Et que faire pour éveiller les consciences? Cette émission est en partenariat avec Green Book, un film de Peter Farrelly qui sort aujourd'hui dans les salles, inspiré d'une vraie histoire. Il met en scène au temps de la ségrégation la relation entre le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, et de son chauffeur Tony Lipp, ancien videur italo-américain issu du Bronx.
Ouais, il y a un gars qui vient d'appeler, un docteur, il cherche un chauffeur. Ça t'intéresse?
Je ne suis pas docteur en médecine. Je suis musicien, je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous?
Les relations publiques.
Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir?
La tolérance comme rempart, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, nous sommes là pour vous écouter. La tolérance comme rempart contre ce racisme qui est moins important mais qui est là encore.
3921 pour nous joindre, le standard d'Europe 1. Vous nous laissez un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Estelle sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 23 ans, je vous appelle de Bordeaux.
D'accord. Alors, vous Estelle, vous dites que vous avez grandi dans un milieu rural paysan et sans aucune mixité. Quel cliché y était répandu? Et en fait, est-ce que c'était dans la région bordelaise, en fait, ce petit village dont vous parlez?
Alors, non, pas du tout. Je suis originaire de Charente.
D'accord.
Et donc, dans une petite commune, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de mixité. Mmh. Donc, comme je me suis mis en couple avec une personne d'origine camerounaise, j'avais un petit peu cette appréhension de ramener quelqu'un de couleur dans ma famille, de voir comment ils vont réagir, ma famille et mon entourage en général, de savoir comment ils vont réagir, étant donné qu'on n'a pas vu énormément de mixité.
Alors, justement,
avec tout ce qu'il dit. Oui.
Ouais, justement, avant d'aborder cette relation avec cette personne d'origine camerounaise, quels étaient les clichés qui étaient répandus dans ce petit village que vous habitiez? Qu'est-ce que les gens s'imaginaient des personnes étrangères?
Alors après, c'est ce petit village, mais de manière générale, de ce que j'entends, ou de ce que même vous avez sûrement entendu, c'est ce côté, c'est pas tant les préjugés, mais c'est ce côté un peu, y a des Noirs en France, des Arabes en France, le côté, ils volent, vous voyez ces clichés qu'on entend souvent, que parfois qui sont traduits par des blagues, mais qui révèlent quand même une certaine part de croyance de la part de certaines personnes.
Et de vous-même, en fait, puisque lorsqu'on est jeune, qu'on a 14, 13, 14, 15 ans, et qu'on n'a pas encore été confronté au collège où il y a plus de mixité, déjà, c'est là qu'on... vous, ces clichés, qu'est-ce que vous en faisiez du haut de votre adolescence?
C'est vrai que c'est des choses qu'on voit à la télé, qu'on entend, donc on a tendance à le croire, sans forcément avoir une part de méchanceté, mais on peut se dire, ah oui, peut-être c'est vrai, avoir plus peur, avoir de la méfiance. Puis bon, tout simplement, quand on rencontre des gens, quand on fréquente des établissements, ou même quand on va dans des clubs de sport et qu'il y a un peu plus de mixité, on se rend compte que c'est complètement faux, et que voilà, il faut tout simplement s'ouvrir au monde et
rencontrer l'autre.
Voilà, exactement.
Parce que finalement, on s'aperçoit que ces clichés véhiculés, souvent c'est parce qu'on ne connaît pas et on a peur de ce qu'on ne connaît pas en règle générale. On fera une comparaison avec les gens qui ont peur d'aller à l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas. Je fais souvent un parallèle entre le racisme et cela. Donc vous avez, il y a 4 ans, rencontré votre compagnon qui est d'origine camerounaise. D'abord, dans quelles circonstances vous l'avez rencontré ?
Je l'ai rencontré à la fac, tout simplement, ouais. Par le biais d'amis en commun.
Là, plus de clichés, plus de préjugés. Il y a eu une sorte de coup de foudre.
Ça fait longtemps que je n'avais plus de préjugés. Hein. Les préjugés, je les avais au collège, donc j'étais très jeune. Hein. Ça s'est estompé avec le lycée. On apprend des choses, on apprend à penser par soi-même, à décrypter un peu les médias, et puis voilà, tout simplement penser par soi-même. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Enfin, le message que je voudrais véhiculer aujourd'hui, c'est dépasser tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir.
On va parler de votre message. L'important, justement, votre message passera d'autant mieux que lorsque vous nous aurez raconté par où vous êtes passé. Parce que, bien évidemment, je suppose que votre mère et votre père, lorsque vous leur avez annoncé la nouvelle, ont eu une réaction face à ce compagnon d'origine camerounaise. Racontez-moi.
Alors, ça leur a fait un petit peu bizarre. Enfin, il n'y a pas eu une méchanceté, il n'y a pas eu une répulsion vraiment, mais j'ai senti qu'il y avait un petit malaise, que c'était nouveau, en fait. C'est une nouveauté. J'ai senti que c'était une petite nouveauté particulière.
Alors, cette petite nouveauté, elle était plus liée au « quand dira-t-on » dans le village quand vous êtes venu la première fois avec votre compagnon, ou c'était quelque chose de plus profondément ancré en eux?
Je pense, comme vous l'avez dit, c'était la peur un peu de ce qu'on ne connaît pas, de oui, aussi ce que les autres peuvent dire. Il y avait cette impréhension de quelqu'un d'origine étrangère dans la famille, et comment ça peut être perçu par les autres, tout simplement de la peur, un sentiment de peur globale.
Alors on va voir comment la suite de votre histoire s'est passée et comment les relations ont évolué. Vous restez en ligne avec nous, Estelle, et puis on verra comment cette famille a évolué en compagnie de cet homme qui est votre compagnon encore aujourd'hui, qui était d'origine camerounaise.
Europe 1.
Vous êtes confronté au racisme lié à vos origines, votre religion, la couleur de votre peau. Cela fait partie de votre quotidien. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some.
Marvin Gaye, dans son costume de chanteur engagé, les émeutes à la fin des années 60, les violences policières contre cette Amérique, cette part d'Amérique raciste, extrait de What's Going On, la tolérance comme rempart contre le racisme. On vous écoute au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Estelle qui nous expliquait avoir rencontré son compagnon d'origine camerounaise, avoir dû le présenter à sa famille. Elle est issue d'un petit village. Comment se sont passés ces premiers repas de famille, Estelle ?
C'était beaucoup de curiosité, donc des questions sur les origines ou comme bon, lui il était quand même assez ouvert d'esprit, donc il avait compris que voilà, que il y avait une nouveauté, et il essayait quand même de présenter ses origines, sa culture, etc.
Les questions, vous les appréhendiez sans doute vous plus que lui finalement peut-être.
Oui, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu. Je me suis dit, quel genre de questions ça va être posé, etc. Mais j'ai quand même été rassurée de la part de ma famille. Je savais qu'ils étaient quand même intelligents, mais c'est vrai que c'est toujours une petite appréhension quand même.
Vous parlez d'une évolution qui s'est faite petit à petit avec ce compagnon. C'est intéressant d'en parler parce que vous parlez d'une famille intelligente, ouverte d'esprit. C'est souvent lié à ça, finalement, l'évolution des relations en règle générale et qu'on ne parle pas de racisme obligatoirement, mais avec votre compagnon, ça a progressé petit à petit.
C'est-à-dire
Je ne sais pas, vous avez l'air de dire que votre famille s'est habituée à ce compagnon assez rapidement, en fait.
Oui, tout simplement, ils se sont rendus compte que on peut être d'origine étrangère, et puis finalement, c'est une différence comme une autre. C'est avoir une couleur de peau différente, c'est comme une autre différence, tout simplement.
Ils se sont rendus compte
que déconstruction des préjugés, que Voilà.
Est-ce que il y avait une différence entre votre père et votre mère dans l'acceptation de ce compagnon?
J'ai pas senti de très grande différence, non.
Bon.
Non.
Bon, c'est très bien. Et en fait, votre compagnon, en fait, lui, il appréhendait en fait de venir la première fois chez vous, en fait, lorsqu'on parle des questions qui lui étaient posées, même s'il s'y attendait. Vous avez changé comment sur la question? Parce que c'est aussi
Alors,
ça.
Alors, il avait un petit peu appréhendé parce que lui, il avait une histoire qui est compliquée justement avant moi, où la famille de son ancien ami était très raciste.
Ouais.
Donc, il appréhendait un petit peu. Mais c'est vrai que je pense qu'au fur et à mesure, c'est comme ça, c'est plutôt bien passé. Bon, ben, il a été rassuré, très vite.
Bon, alors depuis, vous vous êtes engagé au sein d'SOS Racisme. Est-ce que vous intervenez dans votre village natal, justement?
C'est vrai que je n'ai pas l'occasion, car je suis du coup vice-présidente du comité sur Bordeaux.
Ouais.
Mais c'est vrai que je ne fais pas l'intervention, parce que dans le cadre de l'activité associative, on fait des interventions dans des collèges, dans des lycées. Mmh. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire en Charente de là où je viens. Mais c'est vrai que j'en parle assez ouvertement du racisme quand j'entends des choses parfois. J'ai envie de déconstruire tout ça, d'intervenir, que je suis engagée au quotidien, on va dire. Mmh.
Parce que lorsque vous revenez à l'occasion des fêtes, par exemple, vous voyez des personnes de votre... Alors là, je ne parle pas de votre père ni de votre mère, mais il y a toujours des cousins, des oncles, les familles. Vous affrontez encore des questions quant à cet engagement SOS Racisme de leur part?
Un petit peu, parfois... relatif au sujet d'actualité, l'immigration par exemple, ou quand il y a eu des agressions, les agressions policières, l'affaire Théo, etc.
Ouais.
Un petit peu, on en aborde, c'est vrai, de temps en temps, mais ça a toujours été le cas. Mais c'est vrai que bon, on m'attend peut-être un peu plus sur ces sujets maintenant que je suis engagée. On attend, moi, qu'est-ce que j'en pense, moi, l'antiracisme, qu'est-ce que j'en dis.
Merci beaucoup Estelle de nous avoir fait partager votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Carole Reynaud-Paligaud. Elle est historienne, sociologue et a écrit de nombreux ouvrages sur le racisme et sur l'antiracisme.
Europe 1.
Nous parlons du racisme cet après-midi, des préjugés, de la discrimination liée à vos origines, votre religion. Vous y êtes confronté? L'un de vos proches, on vous écoute au 3921. Vous nous écrivez, nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Résister contre le racisme, les préjugés, les clichés liés à la religion, la couleur de notre peau. Nation de tolérance, chante Damien Cesse dans Fils de France. La tolérance comme rempart contre le racisme subi au quotidien. Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1. Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Et c'est Carole Reynaud-Paligaud, historienne, sociologue et auteure de nombreux ouvrages sur le racisme et sur l'antiracisme, qui va pouvoir nous apporter ses éclairages cet après-midi. Bonjour madame, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Bonjour. Alors, Carole Reynaud-Paligaud, dans une dizaine de jours, vous publierez un nouvel ouvrage aux éditions Flammarion intitulé « Des préjugés au racisme ». Justement, quelle est la différence entre préjugés et racisme?
Alors, le racisme, c'est une étape postérieure aux préjugés. C'est-à-dire, c'est quand les préjugés s'ancrent de manière fixe dans la personne, on pourrait dire, ou dans les groupes qui sont concernés. Et donc on a alors une pensée qu'on peut qualifier d'essentialiste, c'est-à-dire qui fige les attributs, les caractéristiques qu'on donne à ces groupes.
Et qui finissent par ces préjugés qui finissent par s'ancrer tellement qu'ils influencent et la manière de penser et de se comporter avec la personne qu'on considère étrangère.
Oui, tout à fait. Donc vous avez bien souligné en introduction l'enquête de la CNCDH qui montre que le racisme a tendance à baisser, mais que les préjugés, eux, sont particulièrement persistants. Mmh. Donc c'est toujours inquiétant parce qu'on peut assez facilement hein, passer d'un préjugé à quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui va entraîner un rejet de l'autre beaucoup plus important.
Et je trouve que le témoignage d'Estelle nous expliquait assez bien ça lorsqu'elle racontait en première partie d'émission qu'elle venait d'un milieu rural où les clichés ont la vie dure. Ces clichés, d'où viennent-ils et pourquoi persistent-ils ?
Alors, la question est vaste, mais le témoignage était particulièrement intéressant parce qu'il pointait bien les différents facteurs qui favorisent ces préjugés. Donc, elle a cité, par exemple, son milieu rural.
Ouais.
Et on s'aperçoit, effectivement, les enquêtes montrent que moins il y a une présence d'étrangers dans la région, plus les préjugés et le racisme sont importants. Donc là, on a bien voilà, une peur un peu irrationnelle de celui qu'on ne connaît pas.
Mmh.
Et puis, elle a pointé aussi l'éducation. Eh bien, elle est à la fac et elle rencontre un jeune d'origine camerounaise, etc.
Ouais.
Et voilà, on voit la nouvelle génération, comment ça se passe pour la nouvelle génération. Et ce facteur âge, il est aussi vérifié par les enquêtes, c'est-à-dire que le racisme croît avec l'âge. Hein.
Ouais.
Plus on est âgé, plus on a des préjugés et plus on a des difficultés à s'en débarrasser, alors que les jeunes générations eh bien, manifestent moins ces préjugés. Et ce facteur âge, il est lié aussi à l'éducation. Et là aussi, donc elle nous montre, hein, c'est une étudiante, elle fait des études supérieures. Donc là aussi, plus la personne est éduquée, moins elle aura tendance à avoir des préjugés et à manifester des sentiments racistes.
Et justement, vous parlez de cette jeune génération où l'on constate une baisse du racisme. Quels sont les facteurs qui sont liés à ces baisses du racisme ? Est-ce que je pense par exemple voilà, aujourd'hui au marché de la musique où 80% du hip-hop en fait, représente les ventes. Est-ce que ça, c'est un facteur important dans la baisse du racisme ? Est-ce que la culture influence fortement cette jeune génération à finalement reconnaître l'autre et ne plus avoir peur ?
Oui, alors je pense que l'effet jeune génération, c'est lié aussi à l'éducation quand même, hein, puisqu'aujourd'hui,
ouais.
Voilà, le niveau d'études augmente globalement. Donc, bon. Mais il y a sans doute aussi une manière de vivre et un des phénomènes d'ordre culturel, hein, la mondialisation qui rapproche les cultures et qui fait que voilà, on connaît plus facilement les cultures d'autres milieux sociaux ou d'autres pays.
Pardon, je croyais que vous n'avez pas fini. Certains parlent de racisme anti-blanc. Justement, est-ce que c'est vraiment un phénomène significatif ou finalement ça n'est pas si important que ça ?
Alors, on a fait des enquêtes un peu précises. Il y a celle de l'INED qui s'appelle l'enquête trajectoire et origine,
ouais.
Et qui montre bien qu'en fait c'est un phénomène d'abord marginal, hein, c'est-à-dire très limité, qui se manifeste de manière très limitée par rapport à toutes les autres formes de racisme qui s'exercent envers des minorités,
ouais.
Parce que là on distingue hein, les populations majoritaires et les populations minoritaires,
ouais.
Surtout c'est un racisme qui se manifeste essentiellement donc dans l'espace public, mais qui se traduit pas par des discriminations.
Mmh.
Et donc là, c'est la différence majeure, hein, si vous êtes.
Je traduis un peu ce que vous dites, hein, parce que on va au-delà. Ce qui veut dire que ce racisme n'a aucune conséquence, c'est-à-dire qu'il n'interdit pas, enfin en tout cas, il ne prive pas de débouchés professionnels. Il n'a pas un impact vraiment profond sur
oui.
ces personnes. C'est bien ça ce que vous voulez dire.
Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez la peau blanche, hein, vous pouvez entendre parfois, dans certaines circonstances, des propos contre le fait que vous soyez blanc,
ouais.
Mais par contre si vous allez chercher un logement ou chercher du travail ou vouloir aller dans une boîte de nuit, là vous n'aurez pas du tout de problème pour accéder, enfin pas un problème, en tous les cas les problèmes ne seront pas liés à votre couleur de peau.
Mmh.
Donc, c'est là la grande différence, hein. Et en fait ce racisme se manifeste souvent en réaction, ce sont des victimes du racisme,
ouais, hein, ouais.
Qui sont eux lourdement touchés par ce racisme, qui sont eux victimes de discrimination, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de chances de trouver un emploi parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau ou parce qu'ils n'ont pas le bon nom de famille, qui, voilà, dans des circonstances comme cela, eh bien, en arrivent hein, finalement à se replier sur leur communauté d'origine et à manifester en retour hein, une réaction de rejet.
D'accord. Alors, pour lutter contre le racisme, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut s'attaquer et déconstruire les idées reçues, décatégoriser ?
Alors oui, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une volonté générale de toute la société, notamment des pouvoirs politiques, oui. hein, pour lutter de manière efficace, parce que je vous ai dit, ça passe par l'éducation. Et en ce moment, on commence à faire un petit peu à introduire dans les programmes scolaires, on commence à parler de stéréotypes, de préjugés, mais c'est encore très, très peu présent, donc il faudrait... par le biais des programmes scolaires, eh bien, engager une lutte très, très forte et très volontariste hein, pour lutter contre ces préjugés.
Et votre sentiment, c'est que l'introduction voilà, est plutôt timide dans les programmes scolaires ?
La politique, elle existe, il ne faut pas la nier. Hein. Ouais. Il y a eu des lois qui ont été votées qui punissent les propos racistes, les actes racistes. Mais tout cela, ce n'est pas suffisant. Et comme je vous le disais, c'est le volet éducation qu'il faut mobiliser parce que c'est en éduquant les jeunes générations hein, qu'on peut déconstruire ces préjugés et être très efficace. Et puis il y a aussi les médias parce que ces préjugés, ces stéréotypes circulent aussi dans l'espace médiatique. Donc il faut aussi en parler.
Hein, Carole Reynaud-Paligo, pardonnez-moi, on va continuer à en parler dans l'autre partie de l'émission. Et justement, vous alliez parler des médias et des clichés et des préjugés qui sont sans doute gonflés par tout ce que véhiculent les médias. Voilà, je pense au témoignage d'Estelle tout à l'heure qui parlait de la télé, de tout ce qui se raconte, des vols et tout. Voilà, je rappelle que vous êtes historienne sociologue et que vous enseignez à l'Université de Bourgogne. On va continuer, bien évidemment, de parler et de donner des éclairages quant au fait de se dresser et de dresser un rempart contre le racisme. Dans quelques instants, on parlera avec Safia. Elle est d'origine juive et arabo-musulmane et elle a été victime, bien évidemment, de racisme en ligne.
Je vous lis un message de Makeda sur Twitter qui a été publié avec le hashtag racisme ordinaire. Aujourd'hui, quelqu'un demande elle est quoi cette personne ? Naïvement, je réponds, elle s'occupe de tel poste. La personne rigole, non, je parle de ses origines. Bref, être noir et français dans un monde de blanc.
Europe 1.
Nous parlons du racisme, vous y êtes confrontés, venez nous raconter au 3921 et vous nous racontez aussi votre histoire sur Twitter, hashtag Europe 1. Le racisme qui subsiste en France, comment le combattre, comment combattre les préjugés, les discriminations, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Safia. Bonjour Safia, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez
Bonjour.
D'où et quel âge vous avez Safia ?
Je vous appelle de Paris et j'ai 17 ans.
17 ans. Alors, Safia, vous avez grandi dans deux cultures, la culture juive et la culture arabo-musulmane, dont sont issus vos parents. Vous dites que seul le racisme que vous avez vécu jusque-là, c'est surtout sur les réseaux sociaux que vous l'avez vécu. Pouvez-vous me raconter ce qui vous est arrivé sur Instagram, par exemple ?
C'est exact. La seule fois où j'ai réellement vécu du racisme, c'était sur les réseaux sociaux, sur Instagram spécifiquement. Il y avait un post d'un journal qui en fait mettait en scène la guerre de Gaza.
Oui.
Des phénomènes dramatiques qui se passaient. Et dans les commentaires, j'ai remarqué un commentaire qui m'avait choquée, profondément choquée, qui était empreint de fake news, de complotisme, et j'ai eu entre guillemets la mauvaise idée de répondre. S'en est suivi un débat par commentaire qui a ensuite dérivé par message privé. Mmh. Où à partir de là, pendant une semaine, j'ai eu des messages privés très fréquents, un harcèlement de plusieurs personnes qui remettaient constamment en question ce que je disais, m'insultaient pour mes opinions. Et en fait, ces personnes faisaient partie du groupe d'extrême droite Léava.
Oui.
Et en fait... Le problème, c'est que je continuais de répondre à ces personnes et de défendre mes idées.
Mmh.
Et à un moment, là où ça a dérapé et où ça m'a choquée, c'est que j'ai cru bon de répondre en me justifiant. C'est-à-dire que j'ai cru bon de répondre le fait que j'étais issue des deux cultures et qu'entre guillemets, je savais de quoi je parlais, que j'étais légitime. Parce qu'en fait, en même temps que je justifiais ce que je disais, il m'enlevait toute légitimité.
Oui, oui.
Donc en fait, en disant que j'étais issue de la culture juive et musulmane, je voulais me trouver une légitimité. Et à partir de là, s'en est suivi des insultes du genre « bâtarde ». Et en fait, ça m'a énormément choquée parce que moi qui voyais ça comme une grande richesse, avec ce mot-là, c'est comme si on m'avait tout enlevé. Bah, étant donné que tu es les deux, tu n'es plus rien en fait.
Ouais. Vous dites que vous vous êtes beaucoup beaucoup remise en question suite à cette insulte de bâtarde. Et même si j'entends aujourd'hui que vous savez que c'est une richesse, bien évidemment, pourquoi c'est votre jeune âge qui a fait que vous êtes remise en question ou ça vous a ébranlé à quel niveau exactement?
Même si ça peut paraître, entre guillemets, léger, pas forcément très grave, ça a eu un impact parce que...
Ça n'est pas léger, ça n'est pas léger.
Ce n'est pas léger, en fait. C'est ça, et c'est ça que j'arrêtais pas de me rappeler. Je mettais mes actes en question. Pourquoi est-ce que je leur ai répondu? Et ça m'a impacté au niveau de mon identité.
D'accord.
C'est-à-dire que je suis française, issue de ces deux cultures, mais en soi, ai-je vraiment une légitimité? Peut-être qu'ils ont raison. Étant donné que je suis issue des deux, peut-être que je ne suis pas alors une vraie juive, peut-être que je ne suis pas une vraie musulmane. C'est dans ce sens-là qu'en fait, ça m'a fait mal.
Vous saviez que ces réseaux d'ultra-droite ou d'extrême-droite sont extrêmement répandus sur les réseaux sociaux et sont très actifs et sont très violents. Vous saviez ça? Ou vous l'avez découvert à travers ce commentaire que vous avez posé et qui a entraîné tout ça?
Je l'ai découvert à travers les réseaux sociaux parce que dans mon milieu, en général, dans la vie quotidienne, je n'ai jamais été confrontée au racisme.
Mais non, parce que...
C'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on est confronté à tous les avis.
Ouais.
On est confronté au monde entier et j'ai découvert la violence des propos parce qu'en fait, il y avait la barrière virtuelle qui permet à ces gens de réellement se lâcher.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est que, en fait, ces gens-là dont vous parlez et ces réseaux-là d'extrême droite et d'ultra-droite, en plus de ça, profitent d'un paramètre énorme et qui, c'est l'anonymat et c'est ce qui leur permet de vous lâcher ça. Mais j'aimerais aborder la question, est-ce que vous avez parlé de tout ça à vos parents et est-ce que vous avez eu un échange avec eux et que vous ont-ils dit par rapport à ce que vous viviez?
L'échange a été très léger parce que je voulais garder ça pour moi.
D'accord.
Mais j'en ai parlé à ma mère parce que il y a un moment où j'ai atteint un tel point de questionnement que j'avais ce besoin de parler. Et mes parents m'ont tout simplement répondu que si être une bâtarde, c'était ce que j'étais, et être un vrai bon juif, entre guillemets, ou un vrai bon musulman, était ce que eux étaient, alors je préférais être une bâtarde et tout simplement garder mon ouverture d'esprit. Et c'est ce qui m'a donné aussi cette rage de me battre pour une coexistence active et pour le multiculturalisme, tout simplement, quoi, la tolérance.
Mmh. Et le multiculturalisme, à travers votre témoignage lumineux cet après-midi, Safia, je vous remercie mille fois de nous avoir raconté votre histoire et d'avoir pris le temps de nous accorder vos mots parce qu'ils étaient infiniment précieux. Dans quelques instants, nous accueillerons Nadège Bosson-Diagne. Elle est actrice et a participé à l'ouvrage collectif « Noir n'est pas mon métier ».
Et le témoignage d'Alain au 39-21 lors d'un repas de famille pendant les fêtes, l'un de mes oncles agriculteurs me lance « Mais vous les Noirs, tous les aliments très pimentés et épicés, vous les supportez très bien par rapport à nous les Blancs ?»
Bah oui,
Alain qui lui
c'est
répond,
une évidence.
Voilà. Et
ouais.
Alain répond « Pas forcément
».
Europe 1.
Nous parlons du racisme cet après-midi. Est-ce que vous y avez été confronté? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans le témoignage de Safia? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. La question qu'on vous pose cet après-midi, est-ce que vous avez été victime de racisme et comment avez-vous réagi? Comment combattre les clichés? Olivier Delacroix vous écoute, vous composez le 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec l'actrice Nadège Bosson-Diagne. Bonsoir, bonjour madame, j'allais dire bonsoir, mais nous sommes en plein après-midi. Comment allez-vous?
Oui, bonjour, mais c'est parce qu'il fait nuit. C'est pour
oui, il fait presque nuit.
Je vais très bien.
Merci. Alors, Nadège, vous êtes co-auteur de l'ouvrage collectif « Noir n'est pas mon métier ». D'abord, pourquoi ce titre et que souhaitiez-vous dénoncer à travers cet ouvrage?
Alors, à l'initiative d'Aïssa Maïga, qui nous a tout envoyé un texto pour nous demander si on voulait parler de la réalité de notre métier.
Oui.
Moi, j'ai mis 2 secondes à répondre que évidemment, j'avais envie de parler parce que ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier et qu'il y a des choses que je vis, que je subis. Et puis, il était temps de libérer une parole. À l'instar du mouvement MeToo, on avait envie, en tant que femme et femme noire, de parler de la réalité de notre métier et des discriminations qu'il y avait et qu'on vivait au quotidien.
Et alors, vous, de quel acte raciste avez-vous été victime dans justement dans ce milieu du cinéma?
Alors, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour que je vous les raconte tous, mais je vais essayer de
synthétiser.
Malheureusement. Alors, pour moi, la chose qui a été la plus violente, en fait, c'est lors d'un tournage dans une télévision française, un gros tournage, où le directeur d'acteur avait fait le commentaire à l'acteur qui joue avec moi en lui disant « Tu vas bien, vous allez bien ensemble avec la bamboula ». Et lui, l'acteur, était venu me répéter ça. Comme si c'était, comme il lui avait demandé,
Qu'est-ce
qu'il fait demain. Et en fait, c'est ça. C'est que ça part toujours d'une soi-disant blague, que c'est insidieux, et puis on banalise des propos qui sont injurieux, racistes et intolérables. Et puis après, moi, parce que j'ai pas voulu laisser passer, évidemment, j'ai appelé mon agent, j'ai monté à la production, et c'était un peu le pauvre directeur artistique, il est malheureux que tu aies pu penser qu'il était raciste.
Ouais.
Voilà. On avait inversé la réalité de la situation. Donc ça, c'est très violent parce qu'il y a ça, ou après, c'est des choses un peu plus bêtes, du genre, est-ce que vous parlez africain? Parce qu'évidemment, l'Afrique est un grand pays. Voilà.
Pardonnez-moi, mais il est bien connu qu'en Afrique, tout le monde parle le même langage.
La même langue, voilà. bien sûr. évidemment. Et puis après, c'est des choses où il y a un plafond de verre et qu'on n'obtient pas de rôle parce que, sans dire à mon agent, on ne peut pas prendre une noire, mais on lui dit, le personnage s'appelle Sandrine.
Ouais.
Et elle est avocate. Mmh. Et voilà, c'est compliqué de dire, en plus, on ne peut pas prendre une noire. Donc voilà, plein de choses comme ça. Donc il était temps que nous emparions de cette situation-là pour alerter le plus grand nombre et puis aussi pour soulager quelque chose que nous vivions. Et du coup, on a toutes parlé un peu dans notre coin, mais le fait de parler ensemble, c'était évidemment d'autant plus fort.
Ça fait toujours du bien de parler ensemble en plus. L'ouvrage collectif s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Alors, on a parlé du cinéma, là, où c'est assez étonnant, hein, finalement, où on serait censé rencontrer des gens plutôt sensés et ne pas faire ce type de... J'ai du mal à vraiment même croire qu'un directeur artistique soit allé aussi loin, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, quoi, parce que vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont du deuxième degré, mais voilà, bon. Et dans la vie courante, est-ce que ce racisme, vous le vivez d'une autre manière, couramment ?
Oui, alors il y a une chose que beaucoup de gens ont vécu, c'est quand on cherche un appartement.
Ouais.
Quand j'appelle et je dis Nadège Bosson, si je ne dis pas tout mon nom parce que c'est long, on me dit oui, très bien, et puis j'arrive et vraiment, plusieurs fois, je vois, en fait, c'est comme si la personne faisait une mise au point, en fait, de son regard et qu'elle comprend que je suis donc noire, juste en face d'elle, et que l'appartement est évidemment loué. Mmh. Ça, c'est arrivé plein de fois. Ou quand je vais dans une boulangerie et qu'on me parle comme ça, parce que même si je ne parlais pas la langue, de toute façon, c'est pas en parlant comme ça que je comprendrais mieux. Mmh. Donc voilà, donc c'est des petites choses qui sont insidieuses, mais en fait, c'est
qui se répètent.
Des petites choses qui se répètent. Ouais. Et puis justement, quand nous avons écrit le livre, ce qui a été vraiment fort, c'est que nous avons reçu plein de témoignages de jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, qui disaient merci, je suis pas fou ou folle, j'avais l'impression d'être le seul ou la seule à vivre ça, et du coup, ça a fait du bien. Voilà, qu'on parle de ça. Mais comme je vous disais, je comprends très bien l'étonnement par rapport au milieu artistique, dans la mesure où on a quand même des gens qui ont un certain niveau d'études, qui sont des gens qui sont dans un raisonnement.
Oui,
et bien...
c'est surtout un milieu artistique où on s'attend à trouver le moins ce type de comportement idiot. Et puis, moi, j'ai du mal à l'écoute de cette anecdote à croire que ce directeur artistique n'avait pas quelques petits préjugés, que quelques préjugés l'avaient suivi pour sortir une telle bêtise. En tout cas, Nadège Bosson-Diagne, merci mille fois d'avoir pris de votre temps cet après-midi pour répondre à nos questions. Salut à toutes vos copines qui ont participé à l'ouvrage collectif Noir n'est pas mon métier. Dans quelques instants, au revoir. Dans quelques instants, nous accueillerons Marwan. Pendant des mois, il a sillonné la France avec un projet particulièrement intéressant. Salam, shalom, salut.
Et Magali nous écrit sur Facebook, tolérer c'est bien, accepter l'autre dans ses différences c'est mieux, le racisme est souvent le témoin de l'ignorance et de la peur, c'est ce que vous disiez un petit peu plus tôt Olivier. Oui.
Europe 1.
Une attitude, une parole.
C'est bien de le répéter en même temps.
Oui, toujours.
Toujours.
Lutter contre cette peur et contre l'ignorance. Lutter contre des mauvaises attitudes, la violence. Si vous avez été victime de racisme, vous témoignez au 39-21. La tolérance comme rempart contre le racisme. Vous échangez avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Marwan sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marwan.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous ? D'où nous appelez-vous Marwan ?
Alors, j'ai 29 ans et je viens de Paris, je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, vous êtes le chef de projet de Salam, Shalom, Salut, qui vise à créer des espaces de discussion partout en France autour des relations entre juifs arabes et avec le salut, j'ai envie de dire, avec tout le monde. Hein. Non, enfin, vous m'arrêtez.
Complètement.
Pourquoi ce projet, en fait ?
Alors, ce projet est né d'une affaire assez dramatique, qui est l'affaire de Mireille Knoll, de cette dame qui a été assassinée et brûlée chez elle.
Oui.
Cette affaire-là était dramatique dans le 19e, et ça a été assez dramatique pour nous, parce que on y était avec Monsieur Dan Cohen, qui est un partenaire et qui de ce projet-là. Donc on a allé sur la manif et voir Marine Le Pen instrumentaliser la haine entre les Juifs et les Arabes pendant la manif.
Ouais.
Nous a profondément choqués, parce que appeler en disant voilà, moi je suis là pour lutter contre l'antisémitisme musulman, c'était totalement inacceptable pour nous, et de reprendre le terrain sur ces thématiques-là et d'en pouvoir en parler dans toute la France, dans un cadre de bienveillance, et pouvoir réaffirmer le fait qu'on veut vivre ensemble.
Mmh. Et alors, ces rencontres, vous avez trouvé qu'il en sortait quoi ? Ça s'est passé comment ?
Alors, ça s'est passé comment ? Nous aussi, on y allait, donc on a fait différentes rencontres dans toute la France.
Ouais.
Et ces rencontres, il en sortait quoi ? C'est que, déjà, on a parlé de la question de nos identités et de faire notre propre chemin aussi. Il était important pour nous, par exemple, de raconter que chez nous, par exemple, on pouvait avoir du racisme ou de l'antisémitisme de l'autre côté, parce que c'est un groupe de Juifs et d'Arabes à la base, pour pouvoir parler et passer outre ces choses-là, parce qu'on n'est pas non plus dans un truc angélique, on est là aussi pour pouvoir parler de sujets qui pourraient fâcher, entre guillemets.
Mm-hmm.
Mais tout ça, le faire dans un espace de bienveillance. Mm-hmm.
Est-ce que...
On allait dans des établissements en milieu scolaire, ouais. Dans des débats à l'extérieur, on pouvait réunir une salle avec 70-100 personnes.
Ouais.
Pour parler de ces choses-là, et donc on pouvait avoir différentes réactions dans les salles, parce qu'on pouvait avoir à la fois des gens qui, dans cet espace-là, pouvaient enfin dire des choses dans lesquelles on les avait enfermés par rapport à leur identité. Bah, quand t'es arabe, bah, tu dois penser comme ça, quand t'es juif, tu dois pas penser comme ça, et nous, justement, on ouvre un espace de discussion qui permet aux gens de aussi affirmer que oui, ils peuvent vivre ensemble avec des juifs, et oui, ils peuvent vivre ensemble avec des arabes.
Mmh. J'allais vous souffler le mot « oser le dire ». Et justement, est-ce que dans ces discussions, vous traduisez, parce que moi, je connais j'ai plein de potes juifs, plein de potes arabes, et puis ces potes juifs qui sont potes avec les potes arabes, justement. Est-ce que vous avez l'impression que c'était difficile à avouer ce type d'amitié, en fait ? Vous parlez d'oser le dire, mais vous avez eu ce sentiment-là ?
Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, moi je suis arabe, et à l'initiative, j'ai monté avec Dan Cohen, qui est juif, mm-hmm. et en fait, avant même de monter ce projet-là, on était potes. Il n'y avait pas de problème, en fait, autour
non,
de
non,
ça.
Non, mais ce que je vous demandais, c'est enfin, j'ai peut-être mal formulé ma question, est-ce que en fait, les gens imaginaient en fait que voilà, des juifs et des arabes ne pouvaient pas être copains, justement. C'était quelque chose.
Oui, peut-être, mais en fait, non, parce que quand
ça fait
on regarde
partie des clichés, en fait.
Ça fait partie des clichés, bien ouais. Évidemment, parce que en fait, quand on regarde aussi l'histoire de l'immigration et compagnie, je peux le voir notamment dans mon quartier où j'ai grandi à Belleville, il n'y avait pas de problème, en fait. Les Juifs et les Arabes aussi étaient dans une entente, mais il pouvait y avoir des soucis avec les nouvelles générations et, dans leur quartier, où il pouvait y avoir quelques soucis autour du conflit israélo-palestinien, mais ils vivaient ensemble parce qu'ils étaient aussi issus de la même immigration.
Et si j'ai quelque chose à conseiller à ceux qui nous écoutent, c'est de se redéplacer dans ce quartier de Belleville à nouveau aujourd'hui pour voir combien la communauté juive et la communauté maghrébine s'entend parfaitement bien à bien des niveaux, et que ces fameux clichés dont on parlait, ces préjugés dont on parlait et parlait très bien Estelle en début d'émission, eh bien ils ont la peau dure malheureusement. Merci beaucoup Marwan pour votre appel et pour votre projet. Surtout, nous n'avons pas eu le temps de parler, mais on aura l'occasion de reparler de ce rempart adressé contre le racisme avec vous et des fameuses caméras cachées que vous avez faites dans les boîtes de nuit et où vous avez été vous avez filmé et vous avez été en permanence refuser de ces boîtes de nuit. En tout cas, voilà, j'espère pouvoir vous parler bientôt encore. Merci aussi à Estelle, Caroline Reynaud-Paligo, à Safia, à Nadège, Bosson-Diane de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission, une émission riche autant que l'est notre pays finalement. Même si les actes racistes baissent, ils existent encore et les clichés, eux, persistent. Être tolérant, c'est être ouvert à l'autre, le respecter, et cela passe par la compréhension et l'écoute. Si vous êtes victime de racisme ou si vous souhaitez agir, l'association SOS Racisme est présente encore aujourd'hui partout en France. Cette émission est partenaire du film Green Book, que je vous invite à aller voir, un film de Peter Farrelly qui sort aujourd'hui au cinéma et que nous vous invitons à regarder pour prolonger le propos d'aujourd'hui.
Et vous pouvez bien sûr continuer de nous écrire, de réagir, d'échanger entre vous sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 et Instagram Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de la résilience, un terme qui désigne la capacité que notre esprit a, notre corps, peut avoir à accepter et à revivre après un événement traumatique. Si vous avez vécu un événement traumatique, attentat, agression sexuelle, deuil brutal, et qu'aujourd'hui vous vous sentez résilient, plus apaisé, appelez-nous au 3921. Si un membre de votre entourage a vécu cela, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant. Nous en parlerons demain à partir de 15h. On se retrouve demain.
Oui, avec plaisir, Olivier.
À partir de 15h.
À demain.